VOA Afrique, les infos. À Washington.
Cher Robin Dorcel, qui vous remercie de votre fidélité dans moins de 10 minutes. Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. En attendant, le journal. Nouvelle attaque de Boko Haram au Cameroun. Au moins 6 villageois ont été tués et plus de 50 enlevés dans la nuit de lundi à mardi dans l'extrême nord du pays par de présumés islamistes appartenant à l'organisation. Le bilan serait plus lourd selon certaines sources. Détail Saloua Jafari.
Une attaque fulgurante. Ils sont arrivés vers 1h du matin. À 3h, ils étaient déjà repartis. Un soldat raconte son arrivée à Tchakamari, ce village situé à 2 km de la frontière nigériane. Une place jonchée de cadavres, des maisons embrasées. Les témoins d'un village voisin reparlent d'une centaine d'otages, les membres du comité de vigilance du village abattus par les assaillants. Après une période d'accalmie, le groupe islamiste Boko Haram a repris depuis plusieurs semaines ses attaques dans la région frontalière de l'extrême nord camerounais. Des dizaines de personnes ont péri dans des séries d'attentats à la bombe commis dans la ville de Maora le mois dernier. Le Cameroun a annoncé le déploiement de 2000 soldats supplémentaires afin de renforcer la sécurité du Nord, 7000 hommes dans le cadre de la force d'intervention régionale à laquelle participent le Tchad, le Niger et le Nigeria. Contre les islamistes de Boko Haram.
En République démocratique du Congo, 6 imams tanzaniens ont été kidnappés à Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. Le président de la communauté islamique à Rutshuru, El Hadj Ali Bacheka, a confirmé l'enlèvement, Eddy Isango.
Rolf Sizahera, président de la jeunesse du territoire qui est VOA Africa joint, explique que les 6 imams étaient en mission de prêche. El Hadji Ali Bacheka, le président de la communauté islamique à Rutshuru, qui cite Radio Okapi, a aussi confirmé la nouvelle. Deux autres Tanzaniens qui étaient avec les imams ont réussi à s'échapper pour rejoindre Goma, le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Selon eux, l'enlèvement a eu lieu dimanche 10 août, alors qu'ils s'adonnaient à leur mission à Katugira, dans ces territoires de l'Est de la RDC. Les ravisseurs ne sont pas encore identifiés, mais la zone abrite aussi bien des milices locales Mai Mai que des rebelles rwandais des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR. Selon l'ONU, ces groupes s'illustrent notamment par des enlèvements, tueries et plusieurs autres exactions contre les civils et les voyageurs.
La Cour constitutionnelle du Burundi a proclamé les résultats définitifs des élections sénatoriales du 24 juillet, largement remportées par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD. La voie est ainsi ouverte pour la prestation de serment de Pierre Nkurunziza. Les sénateurs étaient élus au suffrage indirect par les conseillers communaux, eux-mêmes élus le 29 juin, un scrutin remporté également par le parti au pouvoir. Victoire de 33 sièges sur 36, s'y ajoutent 4 anciens chefs d'État, sénateurs à vie de par la Constitution. Libye, naufrage, un bateau de pêche chargé de plusieurs centaines de migrants a chaviré ce mercredi au large de la Libye et seulement une centaine de survivants ont pu être récupérés dans l'immédiat, a-t-on appris auprès des gardes-côtes italiens qui coordonnent les secours. Le bateau surchargé avait appelé à l'aide dans la matinée et s'est renversé à l'arrivée du premier navire de secours, apprend-on de même source. Tunisie, un lien entre l'attaque du Bardo et celle de Sousse. La police britannique a affirmé l'existence d'un lien entre l'attaque djihadiste contre le musée du Bardo à Tunis le 18 mars, qui avait fait 22 morts, et celle contre un hôtel de Port El Kantaoui près de Sousse. Cette dernière avait causé la mort de 38 touristes, dont 30 britanniques. Les deux attaques ont été revendiquées par le groupe État islamique. Deux pasteurs sud-soudanais ont été condamnés par un tribunal du Soudan pour troubles à l'ordre public et création d'une organisation criminelle. Mais ils ont été libérés, leur période de détention provisoire couvrant la peine. Yat Michael et Peter Yen étaient arrêtés fin 2014 et début 2015 lors de visites à Khartoum. Les deux religieux étaient visés par 8 chefs d'accusation, dont incitation à la haine ethnique et espionnage. Nouveau rebondissement dans l'affaire du lion Cécile, le procès de l'organisateur du safari au cours duquel le félin zimbabwéen a été abattu a été reporté à septembre à la demande de ses défenseurs.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président Barack Obama a appelé le Congrès américain à entériner l'accord visant à restreindre le programme nucléaire de l'Iran, disant que c'est le plus important débat en politique étrangère depuis l'invasion de l'Irak en 2002. Lionel Gaïma nous en dit plus.
Dans un discours à l'Université américaine de Washington, M. Obama a rappelé l'adresse faite en 1963 au même endroit par le président John F. Kennedy, où il avait appelé à des pourparlers avec l'Union soviétique pour la réduction des essais nucléaires. L'appel du président Obama intervient alors que le législateur américain examine l'accord du 14 juillet en prévision d'un vote de soutien ou de rejet en septembre. Le chef de l'exécutif américain a mis l'accent sur le vaste soutien obtenu par l'accord de Vienne au sein de la communauté internationale, à l'exception de l'État d'Israël. Le premier ministre Benjamin Netanyahou a en effet vivement critiqué cet accord, y voyant une menace pour la sécurité de son pays et de la région. Il a rappelé à plusieurs reprises que le document négocié par les États-Unis, les quatre autres membres permanents du Conseil de sécurité et l'Allemagne empêchera l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Les inspections s'effectueront, a-t-il dit, sur une base permanente. Et sans cet accord, Téhéran aura le champ libre pour renflouer son arsenal et devenir, à coup sûr, un État plus dangereux, a prédit Barack Obama. Un sondage de l'université Quinnipiac révèle que 58% des Américains sont contre l'accord sur le nucléaire iranien.
Le Qatar a apporté son plein soutien à la campagne aérienne lancée par la Turquie contre les rebelles kurdes du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan dans le nord de l'Irak, se démarquant de la Ligue arabe qui a condamné l'intervention turque. Précision, Timothée Donangmaï.
Pour le ministère qatari des Affaires étrangères, la déclaration du secrétaire général de la Ligue arabe, Nabil Al-Arabi, n'avait pas été discutée avec les membres de la Ligue avant sa publication, selon l'AFP. M. Al-Arabi avait condamné mardi les frappes aériennes de la Turquie dans le nord de l'Irak et appelé Ankara à respecter la souveraineté de l'Irak, pays membre de la Ligue, les relations de bon voisinage et les accords conclus entre les deux pays. Le Qatar entretient de bonnes relations avec la Turquie, qui mène depuis le mois dernier une campagne de raids aériens contre les rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, dans les montagnes du nord de l'Irak, où la guérilla kurde turque a trouvé refuge depuis des années. Par ailleurs, le chef de la diplomatie turque, Mevlut Cavusoglu, a déclaré lors d'une rencontre en Malaisie avec son homologue américain John Kerry qu'Ankara va bientôt commencer à combattre le groupe État islamique dans le nord de la Syrie. Les États-Unis encouragent depuis longtemps la Turquie, alliée historique, à accentuer la lutte contre le groupe État islamique, ce qu'Ankara s'était montré réticent à faire jusque-là.
Réaction du président de la Commission européenne face au drame des migrations, Jean-Claude Juncker demande aux dirigeants de l'Union européenne de ne pas se laisser aveugler par la pensée populiste. Jacques Aristide.
Les difficultés pour faire accepter une solidarité entre les États ont déçu le patron de la Commission européenne. Jean-Claude Juncker le dit dans un entretien qu'il a accordé à l'AFP aujourd'hui. Les gouvernements européens se sont entendus le mois dernier pour réinstaller plus de 22 000 réfugiés venus des camps syriens, mais les ministres de l'Intérieur ne sont pas parvenus à s'entendre sur la prise en charge de 40 000 demandeurs d'asile arrivés en Italie et en Grèce pour aider ces deux pays dont les capacités d'accueil sont saturées par les arrivants. Quelques 188 000 migrants sont arrivés depuis janvier en Europe via la Méditerranée et près de 2 000 ont péri durant la traversée. Pour Jean-Claude Juncker, les gouvernements ont l'obligation d'agir. Quant à la situation à Calais, au nord de la France, où des milliers de migrants cherchent à passer en Grande-Bretagne par le tunnel sous la Manche, elle plonge Jean-Claude Juncker dans le désarroi. Une situation qui provoque des tensions entre les deux pays. À ce propos, la Commission européenne a proposé hier son aide à Paris et Londres.
Au Yémen, les troupes restées fidèles au président déchu, Abd Rabo Mansour Hadi, ont repris de larges pans de territoire auparavant occupés par les rebelles Houthis dans le sud du pays. Elles ont reçu l'appui aérien de la coalition régionale dirigée par l'Arabie saoudite pour la reconquête d'Aden notamment. Ce mercredi, les rebelles chiites battaient en retraite après la perte de 10 villages, de la stratégique base militaire d'Al-Anad et de la ville de Laïch, capitale de la province de Houta. En revanche, les Houthis contrôlent toujours la capitale nationale, Sanaa, et la plupart des villes du nord du Yémen. Nouvelles du Monde, Washington, chez Robin Dorsil. Restez branchés pour Sahel+.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.